chak boing boing boom chak ping boing boing boom chak 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 boing boing boom chak chong boom chak chak ping boing boing boom chak chong boom chak chak ping.
Première partie, les ballets mécaniques.
Boom chak music non stop
L'avez-vous remarqué ces derniers temps? Le rock, ce bon vieux rock qui a conquis le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'est plus le socle des chansons populaires. Il a fait son temps, c'est comme ça. Avant lui, le baroque ou le jazz ont fait leur temps aussi. Ils n'ont pas disparu, ils se sont fondus dans autre chose. En 2015, la place est largement occupée par des sons électroniques, des rythmes entrelacés qui prennent leurs racines dans la techno, la house music, le hip-hop ou la culture des sound systems jamaïcains. Mais pas seulement. Il y a au fondement même de la culture de la répétition et de la trance numérique que partagent des artistes aussi différents que James Blake et David Guetta, bien d'autres choses encore. Le rêve technologique des futuristes italiens avant la Première Guerre mondiale, les ondoiements mystérieux du térémine, les collages bruitistes de la musique concrète. C'est cette histoire-là que nous allons retracer toute cette semaine en observant les musiques électroniques naître, se ramifier et s'insinuer dans les succès de leur temps pour enfin devenir la bande-son de notre époque. Le temps des machines a une préhistoire et elle est dominée par un animal gigantesque, le telharmonium. C'était un instrument grand comme une pièce entière, imaginé à la toute fin du 19e siècle. Armé de roues géantes qui tournaient devant des aimants, il fonctionnait un peu comme une dynamo et permettait de jouer jusqu'à 7 octaves sur son clavier complexe. Le telharmonium fut une attraction à succès à New York à partir de 1906, d'où il diffusait, via le tout jeune téléphone, des pièces de Bach ou de Chopin. Puis la Première Guerre mondiale et le coût exorbitant de l'instrument ont eu raison de lui, et le telharmonium s'est fait oublier. L'histoire commence donc réellement, pour ne plus s'arrêter, en 1913, date de la publication de L'Art des bruits, un pamphlet signé par l'Italien Luigi Russolo, qui fait suite au manifeste des futuristes de 1909. Russolo y proclame la beauté des machines et souhaite qu'on les écoute enfin. C'est l'acte de naissance des cultures électroniques, unies par une série d'inventions technologiques, mais avant tout par la revendication commune d'une nouvelle réalité, mécanique, moderne et rêveuse. Fini les orchestres. Il faut désormais, dit encore Russolo, conquérir la variété infinie des sons bruits. Et l'Italien applique lui-même ses idées en construisant des instruments qui forment une fanfare de bruit, l'Intona Rumori. Difficile d'imaginer ce que donnaient les récitals de Russolo à l'époque, mais un enregistrement de 1921 nous est parvenu. Ça crisse, ça racle et ça gronde. Avec L'Art des bruits, la graine est plantée. Les idées de Russolo et ses amis agitent l'avant-garde de l'époque. La Première Guerre mondiale aura beau emporter la plupart d'entre eux, Le vacarme continu des canons et la mécanisation intense du conflit achèvent de faire entrer les machines dans le quotidien du nouveau siècle. Dans les années rugissantes qui suivent l'armistice, le jazz ou le tango aussi cherchent des rythmes plus mécaniques, tandis qu'à l'avant-garde, on est carrément passé au bruitisme. En 1924, l'américain George Anteil, toujours entre deux scandales, présente à Paris et New York son ballet mécanique. Une partition folle pour 16 pianos, pales d'hélicoptères, sirènes et percussions. Les représentations de l'époque sont une catastrophe, même réduite à 4 pianos, la synchronisation est impossible. Les sirènes écrasent toute la partition et la tempête déclenchée par les pales d'hélicoptères fait s'envoler les chapeaux et les perruques des premiers rangs. Mais l'œuvre, aussi dure et belle qu'un diamant, selon les mots d'Anteil, reste l'une des plus remarquables réalisations de l'utopie futuriste en musique. L'entre-deux-guerres est une accélération permanente et l'électronique est l'un de ses moteurs. Edgar Varèse, notamment, passionne son temps en cherchant à restituer en musique l'ambiance des rues de Paris ou de New York. Pour cela, il se passionne pour les nouvelles techniques et parmi les premiers, prône l'irruption de l'électricité dans les instruments. Vitesse et synthèse sont les traits caractéristiques de notre époque, explique-t-il dans une interview en 1922. Nous avons besoin d'instruments du XXe siècle pour nous aider à les réaliser dans la musique. Le compositeur et l'électricien devront travailler ensemble pour y arriver. Sur ces principes, Edgar Varèse compose, entre 1933 et 1934, une œuvre charnière, équatoriale. Non seulement c'est l'un des premiers exemples de voix amplifiée, mais c'est aussi l'une des premières fois que l'on entend mêler des instruments classiques, des trombones, des percussions, un chœur d'homme et le thérémine, le premier instrument électronique à marquer réellement son temps. Thank you. Gros morceau, Clotaire et Mine. Mis au point en 1919 par un russe, Lev Sergeïevitch Termen, il a tout d'abord été utilisé par le jeune pouvoir communiste de Lénine à des fins de propagande. Envoyé aux quatre coins du monde, il devait vanter le génie technologique de la nouvelle Russie soviétique. Le Térémine s'appuie sur une invention du début du XXe siècle, l'oscillateur. Ce générateur d'ondes électriques est la base des technologies que nous allons croiser toute cette semaine. Sans lui, pas de synthétiseur, pas de boîte à rythme et pas de musique électronique. L'oscillateur, donc. Il crée un signal électrique au sein du térémine que l'instrumentiste peut faire varier en volume et en hauteur de notes en le perturbant de ses mains. Sous ses gestes magiques, comme une apposition des mains héritée des spectacles de fêtes foraines, le térémine chante alors, d'une voix venue d'un futur inouï et ultra-technologique. Cet instrument passionna les foules qui se pressaient pour assister à une démonstration. C'était plus qu'un gadget, c'était un autre monde musical qui s'ouvrait, et l'instrument s'est mis à surgir dans des partitions pour orchestre ou dans des musiques de films. Là, son timbre aérien permettait de matérialiser l'immatériel, telle la dantesque tempête de neige qui bat le visage de l'héroïne de Odna, La Seule, en français, un film muet de 1931 sonorisé par le jeune Dimitri Chostakovitch. Pour les spectateurs de ce film critique envers l'idéal communiste, ce fut le premier contact avec une musique bel et bien électronique. Films suivront la voie électronique empruntée par Chostakovitch. Citons La fin du monde, d'Abel Gance, et Le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise, film fondateur de la science-fiction. Justement, la science-fiction. Comment représenter l'inconnu, l'espace infini, une technologie que l'on ne peut même imaginer? Avec un térémine, bien souvent, ou des instruments frères comme les ondes Martenot ou le modulateur à anneaux. Une apogée de ces tentatives cinématographiques offertes au très grand public se joue en 1956 dans Planète Interdite, un film réalisé par Fred MacLeod Wilcox. Planète Interdite est le blockbuster shakespearien de l'après-guerre. Alors que le monde se lance dans une folle course à l'espace, s'imagine déjà débarquer sur Mars et coloniser la Lune. Un film qui fascina autant pour son robot Robbie, resté culte, que pour sa musique signée par les pionniers électroniques Louis et Bébé Baron. C'est la première bande originale intégralement électronique et un chef-d'œuvre glaçant qui a marqué autant de musiciens que de futurs réalisateurs. Universitaires doués et surtout bricoleurs imaginatifs, les époux Baron travaillaient à l'époque avec les premières bandes magnétiques. C'était une nouvelle technologie ramenée d'Allemagne par l'armée américaine qu'il a découverte dans l'arsenal radiophonique nazi et qui allait changer beaucoup de choses. La bande magnétique ouvre la voie à la stéréo, aux multipistes et à la superposition. Et avec elle, les époux Baron découvrent l'art délicat des effets sonores. Le ralentissement, l'inversion des bandes, le montage de pièces musicales complexes à partir de sources existantes. C'est une bonne partie des techniques et de la culture des musiques électroniques à venir qui s'inventent déjà, chez eux à New York, mais aussi pendant la même décennie en France, au sein du GRM, le groupe de recherche musicale animé par Pierre Schaeffer. Schaeffer. S'il fallait un parrain à l'éclosion électronique de l'après-guerre, ce serait sûrement lui, même s'il écartait cette idée d'un revers de main lorsqu'on lui posait la question. Et pourtant, il a achevé de poser les grandes idées qui ont fait les musiques électroniques en invitant les auditeurs de l'ORTF, l'ancêtre de Radio France, à remettre en cause l'opposition primaire entre son et bruit, grâce à ce qu'il a nommé la musique concrète. Au diable les instruments, Schaeffer cherchait sa musique dans des fragments sonores existants concrètement. Des fragments qu'il découpait, qu'il mettait en boucle sur des disques vinyles au sillon fermé, trois décennies avant que des DJ du Bronx ne fassent de même avec deux platines vinyles.
Si enfermé, vous avez bien dit sémantique.
En effet, alors.
Là, je suis profondément troublée. Faites-moi encore entendre deux ou trois sillons fermés, que nous nous mettions bien d'accord. Alors, où est le sémantique et l'esthétique ?
Eh bien ici, attention. Je considère que chacun de ces éléments, fermé sur lui-même, fait peu à peu oublier son contenu esthétique ou musical propre. Il devient un matériau. On oublie qu'il joue le ré mi fa sol, qu'il est majeur ou mineur, pour ne percevoir que sa forme générale est les relations d'objet à objet. Tenez, de même que...
Mais dans la...
Et qu'elle a... Et qu'elle a...
On oublie peu à peu qu'il s'agit de Sacha Guitry. On ne s'intéresse plus à ce qu'il raconte. Ce fragment de texte, par répétition, fait oublier sa valeur sémantique et on ne s'attache plus qu'à sa valeur formelle.
Dans le studio du GRM, il devenait possible de jouer avec la musique sous sa forme plastique. Dès lors, elle n'est plus ce qui est écrit sur une partition, mais un nouveau monde sans autre limite que la poésie et l'envie d'emmener l'auditeur vers un ailleurs déconcertant. Avec d'autres chercheurs comme l'américain John Cage ou l'allemand Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaeffer a fait des premiers engins électroniques, qui étaient alors des montagnes de circuits de câbles et d'amplificateurs à lampes, un nouveau langage sonore que s'approprieront jusqu'aux plus grandes stars de l'après-guerre, les Beatles, dans leur album blanc de 1968.
Number nine, Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
Dans les années 60, pendant que les Beatles s'amusent avec ces idées, la musique concrète et électroacoustique se replie dans les studios de recherche comme l'IRCAM à Paris. Trop institutionnelle peut-être, trop dogmatique aussi. Mais elle a essaimé jusqu'à la télévision. En Grande-Bretagne, lorsque la BBC lance sa série Doctor Who en 1963, qui raconte les aventures d'un justicier qui voyage à travers le temps, c'est le BBC Radiophonic Workshop, un équivalent britannique du GRM, qui est missionné pour inventer la musique du générique. La trop méconnue Delia Derbyshire invente alors une sorte de pop concrète à partir d'un oscillateur et du son d'une unique corde de basse, une matière qu'elle manipule ensuite sur une bande magnétique. La fin des années 50 et les années 60 sont un terrain de jeu idéal pour quelques aventuriers qui cherchent à faire sortir la musique électronique des labos de recherche. Et ça tombe bien, la génération du baby-boom est avide de ce nouveau futur. Elle est celle du progrès technique pour tous, des machines qui libèrent du temps pour les loisirs et pour le shopping. On veut de la modernité partout, et jusque dans les publicités qui vendent cette nouvelle société de consommation. Aux États-Unis, le producteur et chef d'orchestre Raymond Scott s'en donne à cœur joie au sein de sa société au nom pompeux Manhattan Research Incorporated. Il y rassemble et invente les machines électroniques les plus chères du moment pour enregistrer des jingles et des ritournelles rétro-futuristes au kilomètre au seul service des grandes marques de l'Amérique d'après-guerre. Des petites séquences perçues comme un délicieux exotisme à l'image de son travail pour vendre les bougies d'allumage de la marque Autolite ou encore les cosmétiques de Lightworks en 1967.
The firing tip is longer than usual, extends much deeper into your engine, so carbon and lead deposits that collect on just plain plugs are burned away by the flame. Pow!
What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. What do you call a pair of eyes that sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. How do you show those teasing lips so they dazzle and shine? His heart does flips. The name of the game is Lightworks. How do you blush so shyly and make it linger yet boldly polish your ring finger? The name of the game is Lightworks.
Un nouvel engin vient encore tout changer dans le petit monde de la musique électronique au milieu des années 60, le synthétiseur. Ce nouvel instrument descend directement de l'orgue et naît grâce à l'invention du transistor qui vient remplacer la lampe à vide dans les circuits électroniques et rendre les instruments nettement plus transportables. Il s'agit, comme dans le thérémine, de générer des ondes qui peuvent ensuite être combinées, jouées comme des notes sur un clavier, puis transformées à l'infini par l'instrumentiste à l'aide d'une myriade de boutons d'effet. À lui seul, le synthétiseur remplace en grande partie les assemblages complexes et le fastidieux travail sur les bandes magnétiques. On passe alors de l'âge du montage à l'âge de la musique synthétique. L'un des premiers synthétiseurs, et surtout le premier à conquérir les foules, est celui de la firme américaine Moog, qui explose en 1968 et 1969 au sein de deux tubes gigantesques. Le premier, c'est le grand classique Popcorn que l'on entend, composé comme un exercice de style par l'allemand Gershon Kingsley, déjà bien connu à l'époque pour le duo électropop avant l'heure qu'il formait avec le français Jean-Jacques Perret. Quelques mois avant la sortie de Popcorn, qui connaîtra mille vies à force d'être repris en version rock, 8 bits ou polka, le label Columbia avait publié un disque commandé spécifiquement pour montrer les capacités du nouveau synthétiseur de Moog. Des suites de Bach, jouées au synthétiseur par Wendy Carlos, une proche du fondateur Robert Moog, qui se charge là de révéler aux amateurs de musique classique le potentiel furieusement pop de ce nouveau clavecin. Concerto brandebourgeois numéro 3 en G majeur par Wendy Carlos. Tout ça paraît bien kitsch vu 2015 et ça l'est. Mais les versions de Bach jouées par Wendy Carlos furent un énorme carton de l'année 1968, devenant même le premier disque de musique classique à se vendre à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis. Stanley Kubrick lui-même s'est intéressé à cette bizarrerie avant de demander carrément à Wendy Carlos de travailler sur la musique de son nouveau film Orange Mécanique qui va sortir en 1971. Comme pour 2001, l'Odyssée de l'espace, le film devait s'appuyer uniquement sur des tubes de la musique classique. Mais pour Orange Mécanique, il s'agissait cette fois de détourner Beethoven ou Purcell pour les transposer dans un avenir malsain. Pour Stanley Kubrick, les monstres sortis du synthétiseur de Wendy Carlos symbolisaient alors l'ambiance en même temps futuriste, psychédélique et grotesque qu'il voulait donner à son nouveau film.
Thank you.
Toujours bon passeur, le cinéma se nourrit avec un appétit insatiable des dernières technologies musicales. Pas étonnant dès lors de retrouver dans le cinéma français des mêmes années les mêmes sonorités synthétiques jouées au clavier par Wendy Carlos. Et dans ce domaine, on tombait bien souvent sur François de Roubaix, un musicien toujours à l'affût des nouvelles machines qu'il empilait et conjuguait dans son home studio avant l'heure installé rue de Courcelles, à Paris. De Roubaix met du synthé partout à l'époque et se passionne notamment pour un petit clavier italien, le Farfisa, qui sonne comme un orgue de barbarie modernisé. C'est notamment lui qu'on entend dans La Scoumoune, un film quelconque de José Giovanni sorti fin 72 avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale, mais BO essentiel qui fait pénétrer un peu plus encore les sonorités électroniques dans la culture populaire française, 3 ans avant la mort accidentelle de François de Roubaix en 1975. En France, François de Roubaix n'est pas le seul à peupler les écrans de synthétiseurs. Joël Fagerman sera également missionné pour composer la musique de nombreux documentaires animaliers et biologiques. Au même moment, un autre Français travaille avec l'orgue Farfisa. Il s'appelle Jean-Michel Jarre. Fils de Maurice Jarre, compositeur de musique de films comme Laurence d'Arabie et Docteur Jivago, la carrière de Jean-Michel Jarre est presque un résumé de l'enfance des musiques électroniques. Formé aux manipulations du son par Pierre Schaeffer au sein du groupe de recherche musicale, fin connaisseur des synthétiseurs, Jean-Michel Jarre revendique pourtant une vision très pop, loin de l'austérité de l'après-guerre. Jean-Michel Jarre veut plaire, il écrit des paroles pour Christophe et Patrick Juvet, reprend le pop-corn de Kingsley et compose de la musique d'ambiance électronique pour la firme américaine Muzak. Un soir de 76, Jean-Michel Jarre fait écouter un morceau sur lequel il travaille à un ami de passage dans son studio, à la recherche d'une musique pour vanter l'extension de l'autoroute A4 jusqu'en Lorraine. Le thème accroche, avec ses nappes de synthétiseurs aériennes et conquérantes. Il s'appelle Oxygène 4 et il sera donc une musique de publicité avant d'être un succès mondial. We'll be right back.
synthétiseur, je comprends à peu près, mais c'était des vrais sons. C'était de la...
Quelle différence la grande différence avec, si vous voulez, c'est pas d'être technique, c'est plutôt avoir un rapport émotionnel avec ces instruments. C'est de dire que la grande différence, tout simplement, c'est que les synthétiseurs actuels, numériques ou digitaux, repose sur le principe de l'échantillonnage, c'est-à-dire de fragments de son, de piano, de violon, de son naturel ou de son de la nature, qui sont en fait bouclés sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que c'est un petit peu le concept de la mosaïque ou le concept du collage, un petit peu comme si on faisait de la musique avec de la peinture, avec un petit bout de Picasso, un petit bout d'un tableau de Dali ou de Goya. Ça peut être intéressant, c'est du collage, c'est autre chose. Alors qu'avec les synthétiseurs analogiques, donc on part du son brut, un peu comme un sculpteur part d'un bloc de pierre et le façonne avec ses mains ou avec un outil.
Dans Oxygène 4, Jean-Michel Jarre connecte toute son époque. Le traitement ultra exigeant du son, héritier des pionniers Schaeffer et John Cage, et les synthétiseurs mélodiques déjà popularisés par Wendy Carlos ou François de Roubaix. Équipé des nouveaux synthétiseurs des marques EMS et Harp, lui y ajoute une sensibilité aérienne propre à la décennie 70, qui aspire à rêver loin des conflits du Vietnam et du Liban. Avant que la décennie 80 ne sonne la fin des utopies et ne retombe sur le sol, à la recherche d'un nouveau tempo au sein duquel le rock n'a pas dit son dernier mot. Demain, dans Continent Musique, nous verrons comment des Allemands débraillés, à la recherche d'une nouvelle transmécanique, ont posé les jalons d'une musique de danse répétitive et hypnotique. Cette émission a été réalisée par Benjamin Hu, prise de son Alex Dang. Merci à Gérard Chan à la discothèque de Radio France, à Arnaud Plançon et Véronique de Saint-Pastou à l'INA. Toutes les références des œuvres diffusées aujourd'hui sont disponibles sur le site de France Culture, ainsi que quelques conseils de lecture et documents vidéo. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne pendant un an et la podcaster pendant 1000 jours.